VOA Afrique.
Le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, c'est Kavadou en direct de Washington pour vous présenter Le Monde aujourd'hui, édition de 19h30 en temps universel, la même heure à Dakar, Bamako et Abidjan. Voici les titres. En Centrafrique, nouvelle violence dans le quartier PK5 de Bangui, 12 personnes ont perdu la vie. Amnesty International accuse l'armée nigériane d'abus sexuels contre des femmes dans les camps de déplacés dans le nord-est du pays. Le gouvernement camerounais a exprimé sa vive désapprobation à l'ambassadeur des États-Unis à Yaoundé. Le président Donald Trump a annulé le sommet avec Kim Jong-un, mais reste ouvert au dialogue. Également de l'économie, la Banque mondiale a attribué 27 millions de dollars à la République centrafricaine, à la République démocratique du Congo, pardon, pour la lutte contre l'épidémie Ebola. Dans la page sportive, les sœurs Williams invitées de Roland-Garros pour le tournoi de double dame. Mais tout d'abord, le journal. En République centrafricaine, le troisième département de la capitale a une nouvelle fois été en proie à de nouvelles violences meurtrières. Hier, au moins 12 personnes ont été tuées dans le PK5. Les précisions de notre correspondant Freeman Sipila.
Mercredi, des individus non encore connus ont largué une grenade dans le marché du PK5, faisant sur le coup 2 morts et de nombreux blessés. En représailles, les hommes armés du PK5 ont tué plusieurs personnes. Aujourd'hui, la Croix-Rouge nationale a donné un bilan d'Antoine Baobogo, son président.
Le bilan est lourd pour peu de temps d'hostilité ou d'affrontement. Il y a eu 12 morts.
Face à ce regain de tension en plein cœur de la capitale, les États-Unis appellent au calme et préviennent que les auteurs des violences répondront de leurs actes devant la justice. Michel Zahira, conseillère à l'ambassade américaine à Bangui.
Nous condamnons fermement tout acte de violence, quel que soit le groupe qui les commet. Tous ceux qui posent des actes criminels doivent répondre à leurs responsabilités devant la justice.
Ce regain de tension est intervenu alors que le PK5, isolé depuis l'attaque du 1er mai contre l'église catholique de Fatima, commençait progressivement à renouer avec ses activités commerciales. Freeman Sipila Bangui, VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, Kinshasa est rempli d'affiches présentant le président Joseph Kabila comme candidat à la prochaine présidentielle. Dans le même temps, un parti de la majorité prend position en faveur du chef de l'État. En vertu de la Constitution, après 2 mandats, le président Kabila ne peut pas être candidat à un troisième. Par ailleurs, dans l'est de la République démocratique du Congo, un militaire des forces navales a été tué et un pêcheur a été blessé dans la nuit de mardi à mercredi suite à une attaque d'hommes armés contre un convoi de pêcheurs sur le lac Kivu. Depuis le début de l'année, c'est la 8e attaque du genre avec un bilan de 5 morts parmi les pêcheurs et 200 filets maillants emportés, a affirmé le président d'une association locale de pêcheurs. L'envoyé spécial de l'ONU pour le Burundi, Michel Kafando, a lancé ce jeudi un appel aux autorités pour relancer le dialogue, seul moyen selon lui de mettre un terme à la crise que traverse le pays depuis 2015. Les Burundais ont largement approuvé par référendum en début de semaine une réforme de la Constitution qui pourrait permettre au président Pierre Nkurunziza de rester en poste jusqu'en 2014. L'opposition et même les États-Unis estiment qu'il a été conduit dans un climat de peur et d'intimidation. Au Cameroun, le gouvernement a exprimé sa vive désapprobation à Peter-Henri Balerin, l'ambassadeur des États-Unis au Cameroun, suite à des propos que Yaoundé considère comme une violation des usages diplomatiques. Anastasie Tudioche.
Peter-Henri Balerin avait affirmé vendredi dans un communiqué qu'il y avait eu des assassinats ciblés, des incendies et pillages de villages dans les régions anglophones commises par les forces gouvernementales. Des affirmations que le gouvernement camerounais rejette en mentionnant des allégations totalement infondées, affirmant que les forces de l'ordre ont toujours gardé à l'esprit les règles d'engagement et du droit international humanitaire. Le communiqué de l'ambassadeur Balerin accusait également les séparatistes armés de meurtres de gendarmes, d'enlèvements de fonctionnaires et d'incendies d'écoles. Une première pour une chancellerie occidentale depuis le début d'un conflit qui oppose depuis fin 2017 le gouvernement à des sécessionnistes armés réclamant l'indépendance des régions anglophones.
Dans un rapport publié aujourd'hui, Amnesty International accuse l'armée nigériane d'abus sexuels contre des femmes dans les camps de déplacés du nord-est du pays affecté par Boko Haram. Les précisions de Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique à Abuja.
Se basant sur plus de 200 témoignages de femmes, Amnesty International assure qu'un système bien organisé d'exploitation sexuelle par les forces de sécurité nigériennes est mis en place pour violer les femmes qui cherchaient à ne pas mourir de faim. Cela se passe dans les camps de déplacés dans le nord-est du pays, où le groupe djihadiste Boko Haram est actif depuis plusieurs années. Des femmes ont été violées par des soldats et des miliciens en échange de nourriture, et des milliers d'autres sont mortes de faim dans les camps de déplacés du nord du Nigeria, précise ces rapports. Le document met en cause l'armée nigérienne et la milice engagée à ses côtés dans le conflit contre Boko Haram d'avoir séparé les femmes de leurs époux et de les avoir enfermées dans des camps isolés où elles sont violées depuis 2015, époque durant laquelle les autorités ont repris le contrôle des territoires occupés par les insurgés. L'enquête d'Amnesty International porte sur les camps établis dans sept villes de l'état de Borno, l'état le plus touché par l'insurrection de Boko Haram, dont Bama, Banki, Ran et Dikwa. Plusieurs femmes interrogées ont confié à l'Organisation des droits humains avoir été violée fin 2015 et début 2016 dans le camp de Bama, où des conditions de vie et de famine sont encore préoccupantes. L'armée nigériane de son côté accuse Amnesty International de publier un faux rapport contre des membres des forces armées opérant dans le nord-est et parle d'allégations de viols fictifs.
Au Sénégal, une attaque à une vingtaine de kilomètres de Zinguinchor a coûté la vie à un enfant de 5 ans tué dans son sommeil. Une femme a également été blessée. Des hommes armés battaient en retraite vers la Guinée-Bissau dans cette région confrontée à une rébellion indépendantiste. Les tractations pour la paix en Casamance se sont multipliées depuis l'arrivée au pouvoir du président Macky Sall en 2012, mais n'ont pas encore abouti à un accord politique. Toujours au Sénégal, des milliers d'étudiants ont manifesté dans plusieurs villes du pays pour réclamer justice après la mort d'un des leurs tué le 15 mai à Saint-Louis dans des affrontements avec la gendarmerie. Ils exigent également une amélioration de leurs conditions de vie. Nous y reviendrons dans notre partie magazine. Le Burkina Faso a annoncé avoir rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan. Cela porte un nouveau coup à l'île qui lui apportait une aide importante en échange de son soutien diplomatique. Nous y reviendrons également dans notre partie magazine. En Afrique du Sud, le gouvernement du président Cyril Ramaphosa a effectué des changements à la direction de plusieurs entreprises publiques très endettées et gangrénées par une corruption généralisée. Ces mesures ont été prises dans le but de lancer un signal fort aux investisseurs et aux agences de notation qui avaient dégradé l'an dernier la note du pays. Au Soudan, plusieurs civils ont été tués et blessés dans des attaques contre 3 camps de déplacés au Darfour cette semaine. C'est ce qu'a indiqué la force de maintien de la paix de l'ONU dans cette région de l'ouest du pays en proie aux violences. Des déplacés ont accusé une milice proche du gouvernement d'avoir commis ces attaques.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Le président Donald Trump a annulé son sommet avec Kim Jong-un. La Maison-Blanche dénonce la colère et l'hostilité du régime de Pyongyang, mais reste ouverte au dialogue en cas de changement d'attitude. Cette rencontre historique était prévue le 12 juin à Singapour. Eric Manirakiza.
Dans un courrier au leader nord-coréen, le président américain estime qu'il est inapproprié à ce stade de tenir cette rencontre prévue depuis longtemps. Monsieur Trump se fonde sur la dernière déclaration de Kim Jong-un, qui affiche de la colère et de l'hostilité vis-à-vis du vice-président Mike Pence. Monsieur Trump souligne que c'est pour le bien des deux parties qu'il annule le sommet de Singapour. Cependant, il précise que toutes les portes ne sont pas fermées. Il s'est dit convaincu du sérieux de Kim Jong-un et espère qu'une solution finira par être trouvée. Washington exige une dénucléarisation complète, vérifiable et irréversible de la Corée du Nord. De son côté, Pyongyang craint une agression américaine et refuse de renoncer à son arsenal nucléaire tant que sa sécurité n'est pas garantie. En guise de geste de bonne volonté, la Corée du Nord a démantelé aujourd'hui son site d'essai nucléaire quelques heures avant la décision de la Maison-Blanche. Plusieurs médias internationaux ont assisté à l'opération et ont décrit une série d'explosions. Par contre, aucun expert indépendant étranger n'avait été convié à l'événement.
Dans un communiqué, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fait savoir son regret que des experts internationaux n'aient pas été conviés au démantèlement du site d'essai nucléaire orchestré plus tôt par la Corée du Nord. En Israël, donc, Israël s'apprête à approuver la construction de milliers de logements de colons en Cisjordanie occupée, une décision perçue par la direction palestinienne comme une nouvelle agression. Ainsi, 2500 logements seront seront mis en chantier en 2018 et 1400 autres ultérieurement, a précisé le ministre de la Défense Avigdor Lieberman. Au Liban voisin, le premier ministre sortant, Saad Hariri, a été reconduit à son poste. Il est chargé de former un nouveau gouvernement. C'est son troisième mandat en près de 10 ans. Des droits renforcés pour les internautes et des sanctions inédites en cas d'abus. De nouvelles règles seront applicables à partir de vendredi dans l'Union européenne pour mieux protéger les données personnelles à l'ère numérique après le scandale Facebook. Et puis en Italie, le ministère des Affaires étrangères a vivement réagi vendredi à une mise en garde de la Commission européenne sur l'accueil des migrants. Voilà pour le journal. Restez à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. C'est l'heure de la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
La Banque mondiale a accordé 27 millions de dollars à la RDC pour renforcer la lutte contre la nouvelle flambée d'épidémie Ebola. De ce financement, 15 millions de dollars serviront pour investir dans la surveillance sanitaire sur 3 ans. Un plan de riposte d'une durée de 3 mois a été établi et se chiffre à près de 57 millions de dollars. Changement à la direction de plusieurs entreprises publiques sud-africaines. Ces entreprises sont profondément endettées et gangrénées par une corruption généralisée. Le ministre des Entreprises publiques, Pravin Gordhan, a déclaré qu'un nombre d'entreprises publiques connaissent des problèmes financiers, opérationnels et de gouvernance, ce qui a des retombées négatives sur l'économie. Pretoria entend lancer un signal fort aux investisseurs et aux agences de notation qui avaient dégradé l'an dernier la note de l'Afrique du Sud. Les mesures consistent à renforcer la gouvernance, éradiquer la corruption, rétablir leur situation financière et s'assurer que ces entreprises remplissent leur mandat économique et de développement. L'Union européenne et le secteur automobile allemand ont exprimé leur exaspération face aux menaces américaines d'imposer des taxes douanières. Le président Donald Trump a ordonné mercredi une enquête sur les importations de véhicules aux États-Unis pour déterminer leur impact sur la sécurité nationale. Ce développement nourrit les craintes d'un conflit commercial américano-européen.
Place à présent à notre page sportive qui nous est présentée ce soir par Yacouba Ouedraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Ika, bonsoir à tous.
La finale de la Ligue des Champions 2020 se jouera à Istanbul.
Et oui, le stade olympique Atatürk d'Istanbul a été désigné par l'UEFA à l'issue de la réunion de son comité exécutif aujourd'hui même à Kiev. Istanbul et ce stade de 76 000 places ont déjà accueilli une finale de Ligue des Champions. C'était en 2005. Il s'agit sans doute de la finale la plus spectaculaire de l'histoire de la compétition remportée au tir au but par Liverpool, on se rappelle encore, alors que le Milan AC menait 3-0 à la mi-temps. La finale de l'Europa League a, elle, été attribuée à Gdańsk en Pologne pour la saison 2020 et la Ligue des champions féminines de la même année se tiendra à Vienne, en Autriche.
Et ce n'est pas tout.
Tout à fait, en 2019, les finales des épreuves continentales auront lieu à Madrid pour la Ligue des champions, à Bakou pour l'Europa League et à Budapest pour la Ligue des champions féminines. L'UEFA a aussi annoncé que la Supercoupe d'Europe, qui oppose le vainqueur de la Ligue des champions au vainqueur de l'Europa League, se déroulera en 2020 à Porto, au Portugal donc, après avoir eu lieu à Tallinn en 2018 et Istanbul en 2019.
En Angleterre, Evra quitte West Ham.
Le latéral français Patrice Evra, 37 ans, va quitter West Ham à la fin de son contrat le 30 juin. D'après le club londonien, l'ancien défenseur de l'équipe de France était arrivé en février, retrouvant ainsi un club après son coup de pied à un supporter de Marseille en novembre. Le geste lui avait aussi valu une suspension de toute compétition européenne jusqu'au 30 juin 2018 par l'UEFA. Lors de sa signature avec les Hammers, Evra avait expliqué vouloir finir autrement. Il a disputé 5 matchs avec le club londonien.
On termine avec du tennis. Les sœurs Williams sont invitées pour le double de Roland-Garros.
Vénus et Serena Williams sont invitées à participer au tournoi de double dames de Roland-Garros. Les Américaines tenteront de décrocher un troisième trophée dans cette épreuve qu'elles ont remportée ensemble en 1999 et 2010. Serena Williams doit effectuer son retour aussi en simple à Paris après avoir manqué l'édition de 2017 pour cause de grossesse.
Merci beaucoup Yacouba.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Et Kabadou, en votre compagnie, vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. À présent, les dossiers du jour. Le secrétaire permanent de la force militaire G5 Sahel, Maman Sidikou, veut un mandat renforcé pour cette unité anti-djihadiste. Elle a demandé aux Nations Unies de fournir un rapport à un niveau plus approprié à la force G5 Sahel. Mais les États-Unis s'opposent à toute implication accrue de l'ONU. Pour analyse sur cet appel de Maman Sidikou, Abdourahmane Dia a joint à Niamey l'analyste Moussa Aksar.
Avant de parler de ce mandat renforcé, il faut parler du G5, il faut parler de son financement, il faut parler de sa montée en puissance, comme l'ont promis les chefs d'État qui se sont succédés et sur les tribunes. Ils ont parlé qu'il va être le G5 va monter en puissance depuis quelques mois. Et là, sur le terrain, on constate que le G5 n'est pas opérationnel.
Dans le cadre de cette montée en puissance, M. Sidikou dit que 80% des effectifs du G5 ont été déployés, notamment à Sévaré au Mali.
Oui, en dehors de ces deux opérations menées par le G5, donc on peut dire sur le terrain que rien n'a bougé, parce que vous le constatez vous-même, chaque semaine, il y a des infiltrations de djihadistes tout récemment à Ouagadougou. Il y a des combats qui se déroulent le long de la frontière intercommunautaire entre les communautés du Mali et du Niger, entre les Peuls et les Touaregs. Donc, il y a toujours ce regain de violence le long de ces frontières-là et les observateurs s'interrogent si réellement le G5 est opérationnel ou pas.
La représentante des États-Unis au Conseil de sécurité s'est opposée à ce renforcement du mandat du G5 et estime que les pays qui avaient fait des promesses de dons doivent respecter leurs engagements et que on devrait plutôt mettre l'accent sur la coopération bilatérale. Qu'est-ce que cela vous inspire?
Moi, je suis de son avis. Il faudrait mettre l'accent sur la coopération bilatérale, notamment entre le Mali et le Niger, si les forces armées de ces pays-là se parlent, qu'elles mènent des opérations conjointes, que ce soit avec le Burkina. C'est de ce côté qu'on a les problèmes, ce n'est pas de l'autre côté. C'est la frontière entre le Mali, le Niger et le Burkina. C'est aujourd'hui sur cet axe-là qu'il faudrait maximaliser les efforts et non trouver quelque chose de grandiose qui va embarquer plusieurs États et qui ne serait pas efficace.
Et il y a des pays comme l'Arabie Saoudite qui ont promis des fonds. Les États-Unis pensent que si chaque pays respecte ses engagements, on ne devrait pas avoir besoin de l'aide des Nations Unies.
Oui, il y a toujours, vous savez, les pays ont des intérêts. Tous ces pays-là, que ce soit l'Arabie Saoudite, et certains pays qui ont promis d'aider le G5, ils ont aussi leur agenda. Il y a beaucoup de pays qui ont leur agenda. Mais il se trouve que s'ils arrivent à mobiliser tous les fonds nécessaires, tout ce qui a été dit auparavant, aujourd'hui, nous ne serons pas dans cette situation.
C'était le journaliste et analyste Moussa Aksar.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum ce jeudi. Plein feu sur la réapparition de la maladie à virus Ebola en République démocratique du Congo. Une campagne de vaccination a démarré lundi. Quelle est l'ampleur de cette 9e épidémie en RDC? Les pays voisins courent-ils un risque de propagation? Que sait-on du vaccin expérimental utilisé pour contrer la maladie? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique. Washington Forum ce jeudi à 19h30.
Le Burkina Faso a rompu ses relations diplomatiques avec Taïwan, qui a apporté une aide au pays en échange de son soutien diplomatique. L'annonce a été faite par le ministre des Affaires étrangères, Alpha Barry, qui justifie cette décision par l'évolution du monde, mais aussi des défis socio-économiques actuels du Burkina Faso. Yacouba Ouédraogo a joint Raymond-Edouard Ouédraogo, dernier ambassadeur du Burkina Faso dans l'autre Chine, celle populaire de 1991 à 1994.
Il n'y a pas d'amitié permanente, il n'y a que des intérêts permanents.
Justement, quels sont les intérêts actuels qui ne font plus l'affaire du Burkina avec Taïwan?
Je ne saurais vous le dire. Vous savez très bien que sur le continent africain, il n'y aurait que le modeste royaume du Swaziland et le Burkina qui, jusque-là, entretenait des relations diplomatiques avec Taipei.
Est-ce qu'il faut comprendre par là que le Burkina veut juste faire plaisir au reste du monde qui est avec la Chine populaire, ou encore comprendre que la Chine-Taïwan peut-être ne donne plus assez d'argent.
Pardonnez de vous dire que je n'aime pas beaucoup cette expression-là. Agir pour faire plaisir. Plaisir à qui? Si c'est pour faire plaisir au peuple burkinabé qui a porté M. Hoffmann Christian Kabore au pouvoir, oui, mais pour faire plaisir à quelqu'un d'autre, je ne le pense pas. Et de toute façon, je vous ai dit que chaque pays agit en fonction de ses propres intérêts.
Rompre avec la Chine, Taïwan, faut-il comprendre par là que le Burkina se tourne désormais vers la Chine populaire?
Très probablement, c'est ce qui va arriver. Et du reste, vous savez que le Burkina n'avait jamais rompu ses relations diplomatiques avec la Chine. Il y a une disposition à Pékin qui voudrait que tout pays entretenant des relations diplomatiques avec Taïwan ne peut plus entretenir de relations diplomatiques avec la République populaire de Chine. À l'époque, ça avait été un acte unilatéral. On ne trouverait nulle part trace d'une déclaration, d'un document qui atteste que le Burkina Faso, en février 1994, avait décidé de rompre ses relations diplomatiques avec la République populaire de Chine.
Vous qui avez été ambassadeur, le dernier ambassadeur du Burkina Faso à Pékin, en Chine populaire donc, qu'est-ce que le Burkina peut gagner en se tournant par exemple vers Pékin?
Il y a des constats qui crèvent les yeux. La République populaire de Chine est membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies et ce n'est pas rien. La Chine est devenue une des toutes premières puissances économiques de la planète. Ça vaut son pesant d'or.
Est-ce que le pouvoir en place, le MPP, aurait une raison particulière, par exemple, de rompre avec Taïwan?
Je n'en sais absolument rien.
On se rappelle aussi que la plupart des ambassadeurs en poste au Burkina avaient rendu quand même visite au MPP, et ce qui n'a pas été le cas avec la Chine, Taïwan, jusqu'à ce que Blaise Compaoré quitte le pouvoir.
Je pense qu'au nom d'une certaine souplesse diplomatique, l'on ne pouvait pas comprendre que l'ambassadeur de Taïwan à Ouagadougou attende qu'il y ait eu l'insurrection populaire avant de se rendre au siège du MPP. Ils avaient estimé à l'époque que c'était une mauvaise lecture de la situation nationale.
On dira aussi que les ambassadeurs en poste au Burkina ne peuvent pas quand même ou ne doivent pas se rendre au siège des différents partis politiques.
Ah si, ils le font. Les ambassadeurs des États-Unis, notamment de la France, se sont rendus tout à fait librement.
Raymond-Edouard Ouédraogo joint à Ouagadougou.
Restez branchés sur VOA Afrique à Ouagadougou sur 102.4 FM au Burkina Faso.
Au Sénégal, la tension n'est pas retombée plus d'une semaine après la mort par balle d'un étudiant lors d'une confrontation avec les forces de l'ordre à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. En plus d'une contestation populaire qui s'est manifestée avec des affrontements contre la police, les étudiants ont organisé des marches sur l'ensemble du territoire. Ce jeudi à Dakar, ils étaient des centaines dans les rues pour réclamer la lumière sur la mort de leurs camarades. Un reportage de Seydina Abagaï.
Aujourd'hui, nous voulons justice. Et pour que justice soit faite, il ne s'agit pas simplement de limoger le recteur ou le directeur du CROUS. La responsabilité va de manière plus haute. Et en disant plus haute, nous disons tous les ministres qui sont impliqués dans cette affaire.
La voix pleine d'amertume, Khadisek crie sa colère. Elle qui était avec Fallou Sen à Saint-Louis au moment de sa mort, estime que ce drame est dû au laxisme des autorités. Raison pour laquelle elle et ses camarades réclament le départ du ministre de l'Enseignement supérieur et du ministre des Finances.
La CSL avait appelé à un front. On a fait une veille autour de l'œuf. Nous avons été les premiers sur place. On a passé la nuit ensemble avec Fallou Sen. Il était en train de chanter les louanges de Dieu parce que c'était son anniversaire. Il est mort dans nos mains parce qu'aujourd'hui, l'autorité n'a pas su entendre l'avertissement de l'étudiant. Si on en est arrivé ici, c'est parce que c'est une goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, le mal, il faut le couper à la racine pour ne pas qu'il y ait répétition des actes, pour ne pas que nos martyrs qui sont morts soient oubliés dans les annales de l'histoire du Sénégal.
Malgré le ramadan et la chaleur, les étudiants sont venus en masse rendre hommage à leur camarade Fallou Sen, tué la semaine dernière à Saint-Louis. À travers cette marche, ils veulent mettre la pression sur l'État afin que ce crime ne reste pas impuni. Alexandre Mapal-Sambou, président de séance de la coordination des étudiants de Saint-Louis, explique leur motivation.
Alors, l'objectif de cette marche, c'est pour exiger que justice soit faite. Parce que nous avons constaté que lorsqu'il y a de pareilles circonstances, l'État ou son appareil judiciaire ne va pas jusqu'au bout. Cette fois-ci, ce que nous réclamons, que justice soit faite. Justice soit faite, cela veut dire que les personnes responsables de cet acte lâche-là soient désignés est sanctionné par la justice.
Avant la mort de Fallou Sène, Dakar avait enregistré la perte de deux étudiants, eux aussi tués par balle par les forces de l'ordre. Une situation que le médiateur de l'Université de Dakar juge inexplicable. Pour lui, l'autorité doit réagir.
Qu'il y a une colère qui se sédimente d'année en année et qui peut, lors d'un affrontement, exploser. Et l'explosion, ça, c'est l'affrontement à mort entre les forces de l'ordre et les étudiants. Et c'est ce genre de situation qui entraîne des dérapages que l'on n'aurait jamais pu imaginer. Alors, ce sont les conséquences qui rappellent, disons, la tonalité ou l'ampleur de la crise. Personne ne peut imaginer que le fait de réclamer sa bourse peut déboucher sur mon domaine.
Pour apaiser les esprits, le chef de l'État a déjà reçu les étudiants de Saint-Louis ce mardi. Le président Macky Sall en fera de même ce lundi 28 mai avec la Coordination nationale des étudiants du Sénégal. Il espère ainsi détendre la situation dans les universités du pays et favoriser la reprise des cours. En attendant, le front des étudiants est toujours en ébullition. À Dakar, Sidina Abagui pour VOA Afrique.
En République démocratique du Congo, la campagne Ebola suit son cours. Médecins sans frontières a rapporté que 3 patients contaminés par le virus Ebola avaient fui un hôpital de Bandaka dimanche dernier. 2 de ces 3 malades sont depuis décédés. Eddie Isengo a joint le ministre de la Santé, Oli Ilenga.
Un hôpital n'est pas une prison, donc vous ne savez pas retenir un malade qui veut sortir. Donc ça s'est passé dans d'autres endroits et que même en cas d'épidémie, la liberté des gens est toujours là. Donc en fait, il y a eu des patients qui sont sortis et qui sont allés dans leur lieu de recueillement. On essaye de sensibiliser la population et de leur dire, mais bon, quelles que soient les croyances culturelles et autres, l'essentiel c'est de rester dans les centres de santé pour se faire traiter. Ça fait partie du travail de la sensibilisation communautaire qui doit continuer. De la sensibilisation qui doit atteindre toutes les couches de la population et les autorités religieuses, coutumières, tout cela doivent être impliqués parce qu'il y a beaucoup de croyances autour de la maladie virus Ebola.
Mais selon l'OMS, il serait mort, un seul a survécu.
Un des malades qui était parti était décédé, effectivement.
N'y a-t-il pas d'autres dispositions qui sont prises? Vous parlez des sensibilisations, mais sortir, prier ou se recueillir
Nous avons décidé de mettre le centre de traitement en dehors de la ville, je crois que loin, parce que l'hôpital où il est situé maintenant, c'est quand même en plein centre-ville, avec beaucoup de fréquentation. Donc on pense qu'avoir un centre de traitement un peu à l'écart de la ville, deuxième point, renforcer tout ce qui est encadrement psychosocial des patients. C'est vrai que certains peuvent souffrir de claustrophobie, penser qu'on porte atteinte à leur liberté. Donc ça fait partie d'un travail. Il faut convaincre les gens, il faut les encadrer, il faut les soutenir moralement, psychologiquement. On ne pourra jamais transformer un hôpital en prison.
Comment les gens prennent-ils la campagne de vaccination qui a commencé? Peut-être c'est pour ça qu'ils sortent, pensant qu'ils sont désormais à l'abri.
Par rapport aux personnes qui sont sorties, les psychologues ont parlé avec les épouses, avec l'entourage. Donc, ils parviennent aussi à cerner le problème à ce niveau-là, au niveau du type de soutien dont les patients ont besoin. La campagne de vaccination, ça c'est autre chose. On a bien expliqué que la campagne de vaccination, c'est pas pour les malades. La campagne de vaccination, c'est pour les contacts et les professionnels de la santé qui sont en première ligne. C'est deux messages tout à fait différents. Et quand on discute avec les familles, les épouses, l'entourage, ça n'était pas du tout en relation avec la vaccination.
Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, Oli Ilenga.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Hein. Suivez-nous en direct sur Facebook Live VOA Afrique. Participez en appelant au 001-202-205, 2633. 001-202-205, 2633. Nous sommes aussi sur Twitter, Instagram et Facebook. Tapez juste hashtag RM Show. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h, temps universel, sur VOA Afrique. Peace Africa!
Ainsi va le monde aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Georges Léonard Sagnou à la mise en onde, Linas Rimkost à la console et Kabadou à la présentation. On reste en contact via notre site voafrique.com pour une actualité 24/24. Excellente suite de programme en notre compagnie.